Père Pierre-Marie Castaignos, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, un petit rappel pour nos auditeurs, nous vous avions reçu pour une émission, c'était le 19 septembre 2020, concernant votre ouvrage « Se marier et durer ». Vous êtes également l'auteur d'un autre ouvrage « Est-ce lui, est-ce elle ?». Nous allons parler avec vous cette année justement de du mariage et de la prise de décision pour se marier. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, très volontiers. Donc, je suis le père Pierre-Marie Castaignos, j'ai 62 ans. Je suis membre de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Je suis situé à l'abbaye d'Ourscamp dans l'Oise. Et voilà à peu près 20 ans que je prépare les couples au mariage. Je prêche un certain nombre de retraites de préparation au mariage. Et depuis 2014, j'ai eu cette intuition de mettre en place des retraites de discernement. Mariage et discernement, est-ce que c'est entre guillemets la bonne personne ? Et je veux dire qu'il y a une énorme demande avec à chaque fois. J'en prêche 6 par an et à chaque fois c'est rempli parce qu'on voit que parce qu'il y a une insécurité, les jeunes sont en quête de repères. Je suis aussi thérapeute de couple. J'ai suivi pendant 4 ans cette formation-là de thérapeute de couple. Et je me suis formé aussi l'année dernière à ce qu'on appelle la communication non violente. Voilà. Du coup, j'aime bien à la fois ce mix entre ma formation philosophique, qui est une formation qui a s'est enracinée sur Aristote et saint Thomas, et qui me structure l'intelligence, mais sur la parole de Dieu, le message de l'Église, et qui me paraît tellement prophétique, surtout pour la question du mariage. Et c'est l'apport des sciences humaines, la psychologie systémique, puisque je me suis formé aussi à cette école, et d'autres outils comme ça qui aident aussi dans l'accompagnement, parce qu'il s'agit aussi beaucoup de faire coïncider des caractères. Ça, c'est capital dans cette phase de discernement au niveau de la rencontre.
Alors, justement, se poser la question du mariage suppose tout d'abord une rencontre, c'est ce que vous venez de dire. On a tous entendu parler de rencontres où les époux ont reçu la grâce particulière de savoir immédiatement qu'ils avaient trouvé, entre guillemets, leur âme sœur. Je pense à un exemple concret, et je me permets de le citer parce que cette personne a écrit un livre où il racontait cet épisode. Il s'agit d'Evelyne et Jean-François Calins, des laïcs de la communauté des Béatitudes. Et Evelyne, en fait, en voyant Jean-François, s'est tout de suite dit « c'est lui ». Et en fait, se sont mariés. Lui, par contre, c'était pas aussi évident. Et se sont mariés après plusieurs années de prière d'Evelyne. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours aussi simple ? Est-ce que on voit la personne et on se dit ah ça y est c'est lui
alors,
ou c'est
ça
elle ?
Peut arriver. Ça peut. J'ai le cas aussi d'amis. Une amie, elle a vu son frère venait la visiter, etc. Il était accompagné d'un de ses amis. En voyant cet ami, l'ami de son frère, elle dit « c'est avec lui que je vais faire la vie aujourd'hui ». Et son père, elle est mère de famille de 7 enfants et voilà, et plus de 20 ans de mariage. Donc il y a une sorte d'intuition. Mais en général, ça vient qu'on est à l'écoute de son cœur, qu'on a une vie spirituelle aussi. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un coup de foudre, comme on dit, qui peut arriver, qu'il n'y a pas de la place au discernement. Je trouve que c'est important que vous puissiez, que les auditeurs sachent ça, que cette question de discernement qui, en fond, est assez nouvelle dans la préparation au mariage, dans la formation des couples. Le pape François en parle dans Amoris Laetitia, discernement qui a été plus appliqué, j'allais dire, à la vie religieuse et sacerdotale, mais pas trop à la vie matrimoniale. Voilà, parce que le format de préparation est différent. Évidemment, le temps sur lequel s'étend la préparation est bien plus court qu'une préparation à l'engagement dans une vie consacrée. Donc, du coup, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, où, si vous voulez, où il n'y a plus de repères, et c'est ça, c'est comme vous dites à juste titre, c'est difficile de savoir, voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je crois pas qu'il y ait forcément la personne, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Je pense qu'il y a des hommes, des femmes avec qui on peut faire sa vie. La preuve que, une fois veuf, il y a des gens qui se remarient. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Et ça, je pense aussi, il faut faire attention à ce que peut véhiculer la société de ce côté-là. Hein, je pense à cette émission, Se marier au premier regard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben, cette émission-là, me paraît assez symptomatique de l'esprit du monde. Voilà, et du coup, se marier au premier regard et divorcer au deuxième. C'est-à-dire que le taux d'échec de ces couples est absolument faramineux. Donc, ça veut dire que ce que propose l'Église d'une progressivité, d'un discernement, d'introduire un peu de rationalité dans un aspect qui est affectif, forcément, eh bien, que la rencontre amoureuse, je trouve, c'est au service de l'amour. Alors que je trouve que ce que propose notre société, le tout tout de suite, le tout sur l'émotionnel, vous voyez, je trouve que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas en place, quoi. C'est pas quelque chose qui me paraît être au service de l'amour.
Alors, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, il y a, concernant la vie religieuse, où il y avait depuis longtemps un discernement pour la vie religieuse. On le voit par rapport aux vœux des religieux. Il y a plusieurs étapes. Il y a une entrée en noviciat, il y a des
Voilà.
vœux provisoires avant d'avoir des vœux définitifs qui
Exactement.
interviennent au bout de plusieurs années. Et finalement, les époux où il y a également un engagement d'une vie, finalement, ça se fait beaucoup plus rapidement.
C'est beaucoup plus rapidement, alors que, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est l'engagement d'une vie, c'est un sacrement indissoluble. Notez que les vœux religieux ne sont pas des sacrements. L'engagement religieux n'est pas sacramentel, c'est un style de vie. Donc c'est encore plus fort que le mariage, que la vie religieuse, la vie consacrée, en termes d'une certaine manière, si on peut dire comme ça. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas de discernement. Alors que je trouve que, en tout cas, il n'y a pas d'étape. Alors, il faut dire que aussi, alors pour rappeler aussi aux auditeurs un point un peu technique. Alors, d'avance, je vais m'excuser de ce que je vais dire parce que c'est. Mais on dit que en théologie catholique, on dit que le mariage est une réalité de création avant d'être une réalité de rédemption. Alors ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que le mariage est une réalité naturelle. C'est-à-dire, il y a, l'homme et la femme sont dans la nature. Vous ne trouvez pas l'Eucharistie dans la nature. Vous ne trouvez pas, je veux dire, le sacerdoce dans la nature, etc. C'est une réalité, homme et femme, il les créa à son image et ressemblance. Et donc, c'est intéressant de dire qu'il y a d'abord. Et du coup, parce que c'est une réalité naturelle, d'une certaine manière, et que les ministres, vous le savez, hein, les ministres du sacrement, ce sont les fiancés eux-mêmes. Du coup, ce qui fait peut-être l'Église s'autorise moins ça n'engage pas publiquement l'Église comme des vœux religieux et a fortiori le sacerdoce, où il y a un engagement public de l'Église. Là, il n'y a pas d'engagement public de l'Église, il y a un engagement public des fiancés. Cependant, vu la quantité de séparation, hein, pratiquement 40-50% dans les grandes villes, etc., avec tout ce que ça entraîne comme souffrance et parfois aussi comme précarité, les familles monoparentales, etc. Donc, je trouve qu'il faudrait s'emparer de cette question-là et vraiment questionner les fiancés, de leur dire les étapes par lesquelles c'est important de passer. Hein, alors que c'est vrai que souvent, ils arrivent à la paroisse. Beaucoup sont en vie commune, un certain nombre ont des enfants déjà, donc c'est vrai que le discernement, il est un peu compliqué, si vous voulez, parce que d'une certaine manière, la messe est dite. Et comme c'est les ministres du sacrement, le curé de la paroisse sur laquelle habitent les fiancés ne peut pas dire non, si vous voulez, c'est intéressant de dire ça. À moins qu'il ait des témoignages absolument clair et net, qui, par exemple, l'un des fiancés a une double vie, il ne peut pas s'opposer à un mariage. C'est parce que les fiancés sont les ministres du mariage et un curé de la paroisse sur laquelle habitent les fiancés, voilà, ont, entre guillemets, dans les droits au mariage, entre guillemets, les baptisés, les personnes baptisées. Donc, du coup, ce qui rend la chose difficile, il n'y a pas cette dimension de discernement. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans nos, comme Église, dans notre ADN pour ce qui est du mariage. Ça l'est pour la vie consacrée, selon ses différentes formes, mais pas pour le mariage. Et je trouve qu'il y aurait vraiment quelque chose à vu l'écho que ces retraites ont, vu l'écho de mon livre, la SUSL, voilà, on sent qu'il y a une demande parce qu'il n'y a pas de repère. Et du coup, les jeunes sont anxieux, et ils se disent qu'est-ce qui fait que je vais dans le bon chemin? Qu'est-ce qui fait que. Voilà, de les aider à réfléchir. C'est eux qui prennent la décision, bien sûr, mais de leur donner des critères de discernement. Qui peuvent les aider à choisir, parce que j'ai cette conviction, si vous voulez, que maintenant qu'on se marie de plus en plus tard, aux alentours grosso modo de la trentaine, entre 28 et 32 pour faire court, voire plus tard, les psychologies des jeunes sont déjà formées. Les psychologies sont formées. Et donc, du coup, ces psychologies-là, du coup, on peut voir s'il y a un appariement, j'allais dire, des caractères. C'est la question des caractères est une question fondamentale. Hein, les divorces, en grande partie, parce qu'il y a des caractères qui ne vont pas ensemble. En grande partie, c'est ça. Hein, et du coup, on ne supporte pas des caractères colériques. Mais ça, on peut le voir déjà en amont du mariage. Et ma conviction et l'intuition que j'ai eue en installant ces retraites et en écrivant ce livre, l'intuition que j'ai eue, c'est que quand on accompagne les couples, on a tout le matériel, entre guillemets, humain qui permet aux couples de discerner, mais est-ce que vous n'allez pas vous épuiser, par exemple, si vous allez de clash en clash, si vous allez est-ce que vous n'allez pas vous épuiser, vous voyez. Donc, je trouve que on a tout à fait une possibilité de donner aux jeunes un certain nombre de critères pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions.
Alors peut-être avant d'aller plus loin, il y a une définition, je ne sais pas s'il existe vraiment une définition pour ce mot-là, une définition à donner, c'est celle de l'amour, parce que on peut confondre attirance physique et sentiments amoureux, sentiments amoureux et amour véritable. Donc, quelle est la définition de l'amour ?
Voilà, je pense que vous faites tout à fait bien de poser la question, parce que c'est vraiment le sujet. On confond souvent amour et sentiment amoureux. Sentiment amoureux, c'est de l'ordre de l'émotionnel, c'est le coup de cœur, ça peut être le flirt d'adolescent, etc. Mais un amour véritable, ou alors ça peut être une attirance physique. Alors c'est important, évidemment, quand on construit un couple, d'être attiré par le corps de l'autre. Ça me paraît tout à fait, c'est-à-dire la base aussi d'une construction d'un couple épanoui. Mais de dire que l'amour véritable, c'est d'abord vouloir le bien. C'est aimer, c'est vouloir, c'est aimer. Et du coup, c'est l'amour de bienveillance. C'est ce qu'Aristote justement parle. Il dit il y a plusieurs formes d'amour. Il dit il y a l'amour utile, c'est-à-dire que l'autre m'apporte quelque chose que je n'ai pas, du coup, ça m'aide. Il y a l'amour agréable, on pourrait dire le sentiment amoureux, c'est juste agréable d'être ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe quand les émotions ne sont plus au rendez-vous? Et puis, il y a l'amour de bienveillance, c'est-à-dire l'amour tel que Jésus nous le marque et nous l'indique. Hein, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. On ne peut pas dire que ce soit mu par l'émotionnel, l'amour que le Christ a manifesté à l'humanité sur la croix. On n'est pas dans l'émotionnel. On a une vraie rentrée du vouloir du Christ dans le vouloir divin qui se donne. Et en se donnant, sauve le monde. Donc du coup, je trouve ça intéressant de dire que cette image de Jésus, qui était un amour de bienveillance, un amour qu'on dira aussi d'agapé, hein, en grec, le mot, c'est un mot qui a été créé, il me semble, pour les chrétiens, du coup, cet amour de bienveillance, cet amour d'agapé, c'est quelque chose ça veut dire aussi derrière ça, déminer dans le couple tout ce qu'il peut y avoir comme immaturité, si vous voulez. S'il y a des immaturités, et c'est souvent ça, c'est intéressant, parce que dans le livre, je fais tout un passage sur la maturité. Pourquoi ça? Parce que dans les déclarations de nullité, vous savez que dans l'Église catholique, il n'y a pas de divorce, mais dans la déclaration de nullité, il y a donc un procès qui est instruit par l'Église, et la question de la manque de maturité est retenue pour dire qu'au fond, il n'y avait pas eu mariage. On déclare nul le mariage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu mariage parce qu'il n'y avait pas assez de maturité et donc pas assez de liberté. Et donc ces manques de maturité, justement, où on voit l'autre comme quelque chose, une personne qui vient combler, me combler. Non, ça c'est pratiquement idolâtrique, si vous voulez. L'autre n'a pas à me combler, Dieu seul peut me combler. Et du coup, parce qu'on demande à l'autre de venir combler peut-être ma solitude, l'autre étant comme une béquille, c'est ce qu'on appelle en fait une relation d'aide, eh bien, je trouve que c'est intéressant de dire que non, ce n'est pas de cette manière-là que, en tout cas, nous concevons, nous, comme disciples de Jésus, comme membres de l'Église catholique, ce n'est pas comme ça que nous concevons l'amour. Oui, bien sûr que le fait d'être à deux, c'est une relation d'aide, mais qui doit être réciproque. Mais ce n'est pas la relation, je ne sais pas quoi, du médecin avec son patient ou alors du professeur avec son élève. On n'est pas la béquille de l'autre. Et si d'aventure ça arrive, moi j'ai vu des cas où des personnes se sont engagées dans le mariage parce qu'elles étaient en difficulté. Du coup, ça les a aidées à un moment, mais une fois rétablies, elles quittent. Parce qu'elles disent « j'ai plus besoin d'être sauvée ». Ce n'est pas un rapport de sauveur à sauver. Ça, c'est, le mariage, c'est pas, ça demande, c'est d'abord un amour d'amitié, c'est une amitié qui arrive à une, jusqu'à la, c'est-à-dire, jusqu'à un désir du partage de toute la vie, la communion de toute la vie. Mais c'est aussi l'amitié, et l'amitié demande la réciprocité. Donc ce qui est intéressant quand on est en train de former son couple, de voir est-ce qu'il y a réciprocité ou est-ce que c'est souvent l'un qui prend les initiatives pour l'autre, est-ce que l'autre est à la traîne, et ça se voit, c'est-à-dire même au début, au bout d'un an de relation, on peut déjà le voir, sans vivre ensemble. J'attire aussi votre attention sur le fait que la vie commune avant le mariage n'aide pas au discernement. Ça n'aide pas du tout au discernement. Parce que je trouve que déjà 99% des couples qui se séparent ont vécu ensemble avant le mariage, donc il semblerait que c'est un peu contre-productif. Et puis c'est tellement engageant que d'une certaine manière, on se ferme la possibilité de rendre à l'autre sa liberté, vous voyez. Donc je trouve que ces immaturités qui peuvent venir parasiter le discernement, qui peuvent parasiter l'amour, il faut les débusquer. Mais ça demande, vous voyez, vous comprenez bien, ça demande un accompagnement personnalisé. C'est là où c'est compliqué pour nos paroisses, parce qu'il y a un manque de moyens, parce que peut-être aussi de formation, de personnes qui soient aptes à dire au couple, écoutez, là il y a quelque chose qui ne va pas dans votre manière de fonctionner.
Alors, justement, est-ce que vous avez en tête quelques exemples de questions à se poser individuellement avant d'envisager de former un couple avec une personne.
Oui, alors je vois plusieurs questions. Premièrement, est-ce que je me projette avec l'autre? Et ça, je pense que c'est important. C'est personnellement, quand je suis avec l'autre, est-ce que c'est juste dans une relation agréable, mais passagère, mais en fait, je sais très bien que finalement, ça va aboutir à rien. Et ça, je pense que comme chrétiens, nous devons être clairs là-dessus, avoir une rectitude d'intention. Nous n'envisageons pas, dans l'Église catholique, une relation amoureuse qui soit juste l'effet d'un soir, si vous voulez. Nous envisageons une relation amoureuse uniquement dans un engagement. Et ça veut dire que c'est la manière dont nous avons appris, à travers l'amour de Jésus qui s'est donné totalement, mais c'est aussi un don total dans la vie matrimoniale. Donc la personne qui aurait une intention pas très droite et dit en fait non, mais entre guillemets, pardon, mais pour me tenir chaud en hiver, eh bien je me mets avec telle personne ou telle autre, mais en fait je sais très bien que je n'irai pas jusqu'au mariage, cette personne-là n'est pas dans une intention droite, n'est pas dans une rectitude d'intention. Donc, c'est important qu'il y ait une rectitude d'intention. C'est-à-dire que si vous avez des warnings qui s'affichent dans votre relation, et souvent on n'écoute peut-être pas assez son cœur et on n'est pas assez connecté aux motions du Saint-Esprit en nous, mais s'il y a des warnings qui disent « Oh là, attention, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi elle a telle réflexion, etc. » Et du coup, vous sentez que tout devient très compliqué, moi je vous invite à reposer le discernement. Parce que aussi un autre critère, il y a une certaine simplicité. une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Ça ne veut pas dire que les 50 ans de vie matrimoniale seront un long fleuve tranquille, mais je trouve que ça veut dire que, d'une certaine manière, que il y a une joie, c'est aussi un autre critère, qui fait qu'on a le couple se projette. Et si à un moment donné vous sentez que vous ne vous projetez pas, il y a aussi une honnêteté à avoir, une rectitude d'intention de rompre la relation. Et un conseil pour les ruptures amoureuses qui sont toujours douloureuses, c'est chirurgical. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas « ah ben non, tu m'as pas compris » et essayer d'étirer, se justifier, étirer la relation sur plusieurs années, tout ça c'est source de souffrance. Moi ce que je conseille c'est vraiment chirurgical. Écoute, remercier l'autre pour le temps passé dans cette relation, mais dire que je ne pense pas que je sois la bonne personne pour toi, ni toi pour moi. Donc quand on a dans son cœur s'affiche des warnings en disant stop, il faut être honnête et mettre un terme à cette relation. Et ensuite, il y a plusieurs autres critères, mais évidemment, je vous l'ai dit, une paix, une joie intérieure, mais c'est aussi d'une certaine manière une attitude de confiance. De confiance et d'abandon, c'est-à-dire qu'une disponibilité intérieure, une humilité de fond, parce qu'on peut aussi tomber dans l'excès inverse de tout saucissonner, vouloir tout rationaliser, d'être dans le contrôle, vous voyez. Donc c'est là où c'est pas facile la vie de discernement, parce que à la fois il faut se poser la bonne question et à la fois vous faites un pas dans le contrôle, dans l'abandon et lâcher un lâcher prise. Donc c'est cet équilibre, d'où l'importance d'être accompagné. Moi je recommande aux couples qui sont en discernement, etc., de se faire accompagner, en proximité, proche de là où ils sont, d'avoir des personnes relais, des couples relais, il y en a dans les paroisses, qui les aident à se poser des bonnes questions. Et puis une attitude qui me paraît aussi importante à avoir dans cette étape de discernement, c'est vraiment, et ça fait partie de la rectitude intérieure, j'appelle ça baisser le périscope, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de regarder sur le marché s'il n'y a pas un garçon, une fille mieux. Non, si je suis dans une relation, je plonge dans cette relation, quitte à en sortir parce que j'ai vu que ce n'était pas la bonne personne. Mais on ne peut pas être en même temps dans une relation et regarder autour, ah bah tiens, c'est le garçon, cette fille, ce garçon, cette fille, en fait, me plaît plus, ou comparer, ou faire son marché. Non, il y a quelque chose qui n'est pas honnête.
Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une histoire d'une femme qui avait envisagé de former un couple avec un de ses meilleurs amis. Elle s'était dit, mais finalement, il m'attire, on est amis depuis longtemps. Donc pourquoi pas, et il s'est passé un événement, c'est que dans une situation donnée, cette amie a eu une réaction violente et là elle s'est dit non, ça va pas être possible, heureusement que j'ai constaté cette réaction avant de m'engager avec lui.
Oui, bah, c'est, vous voyez, ça fait partie du discernement. Je trouve ça intéressant, cette personne-là a posé les choses intelligemment, c'est-à-dire qu'elle a dit tiens, là aussi, au début de tout amour, il y a une amitié. Il y a toujours. On ne va pas voir quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève en disant « Est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Ça n'a aucun sens. Donc, il y a d'abord une amitié. Et dans cette amitié, on voit l'autre dans les groupes, on peut peut-être voir l'autre avec sa famille, on voit l'autre parfois dans un groupe plus restreint, etc. Et comment il réagit ? Et ça, c'est très intéressant de voir une personne qui a un accès de colère, par exemple, ou une réaction trop vive, etc. Et cette femme a dit, ben non, je ne pense pas vivre à elle. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est impossible à accepter. Je ne suis pas capable de vivre avec cette différence. Parce que forcément, il y a des différences. Il y a des différences dans la... Il y a des différences dans le, déjà homme-femme, c'est une différence. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Il peut y avoir des différences en termes culturels, de milieu. Il peut y avoir des différences au niveau religion. Mais avec quelle différence je suis capable de cheminer, avec quelle différence je ne suis pas capable de vivre. Oui, c'est là le discernement. Au niveau du caractère, une personne qui serait colérique, une personne qui serait en permanence en retard, par exemple, le rapport au temps, c'est quelque chose dont on parle très peu dans les préparations au mariage, mais c'est juste hyper important le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est quelque chose qui est capital. Parce que vous avez, j'essaie d'accompagner un couple déjà marié mais qui est en difficulté, mais grande partie de la difficulté vient d'un rapport au temps qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est quelque chose qui ne se change pas. Vous voyez, le rapport au temps, par exemple. Le rapport au temps, mais aussi des personnes, j'ai accompagné des couples internationaux, par exemple, où entre deux pays, etc., de même religion, de même couleur de peau, etc., mais il y avait des rapports au temps complètement différents. Donc, la différence attire, mais je ne suis pas toujours capable de vivre avec toutes les différences. Donc, se poser la question, par exemple, est-ce que je suis capable de vivre avec une personne qui ne partage pas ma foi ? C'est quelque chose qui se posait. Il y a des couples, vous connaissez des couples où souvent elle est plus engagée que lui, par exemple. Hein, tous les deux étant baptisés, par exemple, mais lui n'a pas forcément grand intérêt dans ces questions religieuses. Là, je serais amené à vivre une certaine solitude. Une certaine solitude peut-être aussi pour mes enfants, dans l'éducation de mes enfants, etc. etc. Quelle différence je peux assumer et qu'est-ce qui est au-delà de mes forces ?
Une fois qu'on s'est posé ces questions à titre individuel et que on envisage de former un couple ou on le forme, est-ce qu'il y a des questions à se poser en couple ?
À se poser en couple, oui. Est-ce que le fait d'être ensemble me rend heureux ? Est-ce que je suis plus heureux à deux que seul ? Est-ce que, d'une certaine manière, il y a un certain rayonnement de notre couple ? Qu'est-ce que je perçois dans le regard de l'autre ? Peut-être dans la parole de l'autre, qu'est-ce que je perçois de notre couple, dans ça, toute la dimension de conseil, qui est très importante. Alors, c'est toujours délicat, parce qu'il faut demander conseil à la bonne personne, etc., mais comme parfois des très bons amis, etc., qui vous connaissent depuis longtemps, etc., il peut y avoir une parole qui peut être dite, et du coup, comme couple, comment est-ce que tu me vois comme couple, comment tu l'accueilles, et voilà. Et j'invite aussi de ce point de vue-là, par rapport aux témoins, moi j'écris aux témoins, j'invite les témoins à être très droit dans leurs bottes. Je veux dire, s'ils pensent que ce n'est pas possible d'être témoin d'un couple parce qu'ils sentent que le couple se déchire, par exemple, devant eux X fois, ben c'est bien de le dire. Oui, donc c'est être assez honnête et poser comme ça un certain nombre de questions en couple, dans le regard des autres, dans le rayonnement que peut avoir le couple, etc. Et soi-même, est-ce que ça me rend davantage heureux ?
Père Pierre-Marie Castaignos, nous avons une question d'une auditrice par SMS. Alors, une question qui s'adresse à la fois à vous et puis également à l'ensemble des auditeurs. Bonjour, nous sommes sur Aubagne et notre couple est en souffrance. Y a-t-il un couple pour nous aider en union de prière ? C'est signé Angèle. Donc ça, c'est le message pour vous, chers auditeurs. Si vous êtes à Aubagne, eh bien, contactez-nous pour venir en aide à Angèle. Et donc pour vous, Père Pierre-Marie Castaignos, comment justement trouver un couple qui nous aide à cheminer et à discerner ?
Alors du coup, tout dépend si cette personne est déjà mariée. J'ai l'impression que oui, il semblerait que c'est votre auditrice, Angèle, est dans un couple marié, semble-t-il. Et donc le couple, d'abord, est en souffrance. La première chose, je voudrais féliciter Angèle parce que elle demande de l'aide. Parfois aussi, on demande de l'aide trop tard. Et on laisse passer trop de choses, trop d'incompréhension, trop de manque de communication, trop de conflits qui fait que le couple est blessé. Vous voyez, donc on demande de l'aide trop tard. Mais en tout cas, il y a le fait de demander de l'aide. Je pense que la meilleure manière, c'est de voir avec sa paroisse s'il y a un couple pour aider, mais aussi il y a des professionnels. Il y a des professionnels qui partagent notre foi et qui croient au sacrement de mariage, des thérapeutes de couple, des conseillers conjugaux, et ça, adressez-vous à votre diocèse, où parfois il y a des listes qui sont disponibles, ou des personnes dont on sait que, voilà, ce n'est pas des personnes qui vous disent, séparez-vous ou poussez au divorce, vous voyez, c'est qui va essayer d'accompagner le couple pour se battre, pour que peut-être parfois il n'y a pas grand-chose à faire évoluer, mais bon, en tout cas, c'est bien de ne pas rester un couple en souffrance, c'est bien de ne pas rester seul. Et bien souvent, les séparations, c'est parce que c'est par des manques de dialogue, parce qu'on n'a pas pris, parce qu'on n'a pas pris le temps. C'est vrai que l'activisme, le fait de nos vies surstressées, etc., n'est pas bon pour le couple. On ne prend pas le temps, on ne prend pas le temps de prier. Et ça, je pense qu'aussi, cette dimension spirituelle, il est important de l'évoquer parce qu'aussi, c'est quelque chose qui est important pour nos auditeurs. Mais voilà, de dire, on ne prend pas le temps d'une ouverture à une transcendance, on ne prend pas le temps de faire une retraite. Moi, je suis intimement convaincu, par exemple, qu'une retraite par an, c'est vraiment l'antidote à plus de la moitié des divorces. Parce que on se sent, le couple se sent sur lui-même, non pas sur les enfants, non pas sur le travail, non pas sur la belle famille, que sais-je, mais se sent sur lui-même, et sur lui-même sous le regard de Dieu. Et ça, c'est vraiment salvateur. C'est vraiment salvateur. Mais vous voyez, bien souvent, le fait de ne pas prendre le temps spirituel nécessaire pour le couple, au quotidien, peut-être par la prière, ou ne serait-ce que par la messe dominicale, en couple, la question de la retraite, je trouve que c'est quelque chose qui est très dommage. Du coup, forcément, si on ne prend pas les moyens de tenir sur la distance, comment s'étonner de tant de séparations? Vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas eu de moyen pris en amont dans le discernement, et il n'y a pas eu de moyen pris pendant que le couple était marié. Voilà, c'est, et on laisse passer le temps, et voilà. Et donc, mon invitation, c'est ça, c'est de dire, bah, écoutez, voilà, soyez confiante d'abord, adressez-vous à votre paroisse. Il y aura peut-être des couples accompagnateurs, mais peut-être aussi des professionnels vers lesquels la paroisse vous enverra.
Alors, peut-être une question concernant l'entourage du couple. Vous avez parlé des amis, de la famille, et quelquefois, en particulier les parents, peuvent réagir dans le sens où le futur gendre n'est pas ce qu'on avait imaginé, on ne l'apprécie pas vraiment. Et on serait tenté de conseiller à sa fille, et puis inversement, hein, ça peut être aussi la future belle-fille et son fils, on aurait tendance à conseiller à son enfant de ne pas s'engager, mais plus sur entre guillemets, des goûts personnels. Qu'est-ce que vous pourriez dire donc, justement, aux parents de futurs mariés?
C'est vraiment très important ce que vous dites là, parce que, et ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. Dites-vous quelque chose, c'est que le mariage, c'est la famille continuée. Le mariage, c'est la famille continuée. C'est-à-dire que le mariage, quelque part, dans le mariage, les parents essayent de valider l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est, je veux dire, universel. Et plus on aime quelqu'un, comme c'est le cas d'une relation parent-enfant, plus on a d'attentes pour cette personne. Et c'est logique. Vous attendez que votre enfant réussisse à l'école, vous attendez ensuite qu'il trouve une profession qui lui plaise, vous attendez et vous aimeriez telle profession parce que vous dites, tiens, ça lui correspondait bien. C'est normal, on a des attentes. Je pense qu'il ne faut, faut pas renier. Simplement, il y a deux choses. Soit il y a des parents qui n'ont pas forcément de distance par rapport à leurs attentes et projettent leurs attentes sur le couple parce qu'il me faudrait un couple qui soit de tel milieu social, de telle religion, de telle pratique, de tel rythme dans la pratique de la messe, etc., etc. Du coup, ils voudraient en fait un copier-coller de leur propre couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un danger. Ou alors, il y a des parents qui ont un certain discernement et qui disent, mais écoutez, aux enfants, à leurs enfants, tiens, j'ai vu telle ou telle chose, on respectera ta décision, comme parent, tu es adulte et on respectera ta décision, mais est-ce que tu as bien vu, nous on a vu telle ou telle chose qui peut-être pourrait être problématique. La question des caractères, par exemple. Le manque de compatibilité de caractère est à l'origine pratiquement de, je ne sais pas statistiques, je ne sais pas s'il y en a qui ont été faites, mais au moins 50-70% des divorces, et avec les questions d'adultère. Hein. Là aussi, j'aimerais bien qu'on fasse une émission uniquement sur la fidélité, parce que c'est un vrai sujet. Mais du coup, les parents peuvent dire, mais est-ce que être un miroir, j'allais dire, par rapport à leurs enfants, tout en étant, et c'est très difficile, tout en étant détaché d'une projection sur eux, qui est un peu inévitable aussi. Donc, c'est à prendre avec un certain discernement, à prendre avec précaution, c'est cette question de la vie des parents.
Alors, nous arrivons quasiment au terme de notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez ajouter, peut-être vous avez un message particulier pour les auditeurs de Radio Maria sur notre thème d'aujourd'hui?
Eh bien, oui, j'aurais comme message pour clore cette émission, déjà encourager et féliciter les couples qui sont sérieux dans leur préparation au mariage. Et il faut dire que l'Église est celle qui propose, dans les religions en général, met le plus de moyens au service des couples pour la préparation au mariage. Ça, il faut le reconnaître, ça n'existe pas dans les autres religions. Hein, pas ce point-là d'application. Donc, et de leur dire, prenez les bons moyens pour discerner. Si vous êtes dans cette étape avant les fiançailles, avant le mariage, de vous poser les bonnes questions. J'en ai donné un certain nombre au cours de cette émission pour vraiment construire un couple durable.
Eh bien, merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castagnos. Et puis, à bientôt pour une prochaine émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.